Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 4, chant 1, La naissance et l'enfance de la flamme. Sri Aurobindo, traduction de Satprem, en français. À l'écoute d'un rythme régulier de pure délice, ces jours passés comme se chantant à eux-mêmes. Chaque minute était un battement de cœur de la beauté. Les heures s'accordaient à une douce tonalité consentante qui ne demandait rien, mais prenait tout ce que la vie donnait. Souverainement, comme le droit inné de sa nature, son esprit était proche de son soleil natal, soleil avec un grand S. Son souffle intérieur proche de la joie éternelle, la première vie claire qui s'échappe du sommeil de la nature. Grimpe tout droit avec ivresse vers les cieux, absorbé dans sa poussée de joie, suffisante à elle-même et pourtant tournée vers tout. Alors, je me permets de répéter, absorbé dans sa propre poussée de joie, suffisante à elle-même et pourtant tournée vers tout. Elle ne communie pas visiblement avec son monde, ne communique pas ouvertement avec ce qui l'entoure. Il existe une unité innée et occulte qui n'a besoin d'aucun instrument et ne bâtit aucune formule. Elle grandit à l'unisson de tout ce qui est. Elle assume tous les contacts de son extase, riante et ballottée par les mers, elle consent aux baisers du vent et transmue les chocs du soleil et de la brise. Un cri de joie danse dans ses feuilles. Une passion magique tremble dans ses fleurs. Une silencieuse félicité aspire dans ses rameaux. Une divinité secrète est la cause de cette beauté. Elle est l'esprit et l'hôte intime de tout ce charme, la prêtresse de cette douceur et la muse de cette rêverie. Invisiblement protégée contre nos sens, la dryade baigne dans une clarté des profondeurs et respire un autre air de calme et de tempête et palpite intérieurement sous une mousson mystique. Cette unité profonde se révélait en Savitri enfant, mais à une hauteur plus divine, même quand elle se penchait pour répondre aux familiers de la terre, son esprit gardait la taille des dieux. Elle s'inclinait, mais ne s'égarait point dans le règne de la matière. Son mental rayonnant faisait une traduction du monde, de lumineuses fantaisies peuplées de merveilles et de muses offraient la nourriture spirituelle des rêves, à la déesse de l'idéal dans sa maison d'or. Sensible à des formes auxquelles nos yeux sont clos, consciente de voisinages que nous ne pouvons pas sentir, la puissance en elle façonnait ses sens et modelait des visages plus profonds que nos types superficiels. Un invisible rayon de soleil courait dans ses veines, irradiant son cerveau de brillance et de couleurs célestes, éveillant des yeux plus vastes que ceux de la terre, dessiné dans la simple sincérité de ce rayon, ses pensées enfantines jaillissaient et se muaient spontanément en images vives de la vérité profonde de son âme. Même ses yeux jetaient sur tout ce qui l'entourait un autre regard que la vue ignorante des hommes. Tous les objets étaient pour elle des formes vivantes d'elle-même, et elle percevait un message de parenté. S'éveiller en chacune des choses qu'elle touchait. Chacune était le symbole d'un pouvoir, une étincelle vivante. Dans la grande ronde des infinitudes inexplorées, rien n'était étranger, rien n'était inanimé, rien n'était sans sens, ni son appel. Car elle ne faisait qu'un avec la nature plus haute, comme l'humus a fait jaillir la splendeur d'une branche et d'une fleur, comme la vie animale a fait pousser l'homme pensant, en elle maintenant apparaissait une nouvelle épiphanie. Un mental de lumière, une force de vie rythmique, un corps pétri de divinité cachée, préparait l'image du Dieu à venir. Et quand le lent poème de ses années grandissantes et le fertile murmure de l'essaim de ses jours eurent comblé de miel ses sens et remplit son corps, complétant la pleine lunaison de sa grâce, gardée par le seul silence de sa force. Sa grandeur solitaire n'était pas moindre. La divinité pressait plus proche de la surface. Un soleil prenait la place de l'enfantine nébuleuse, souverain dans un ciel bleu sans compagnon. Le soleil montait pour saisir la scène humaine. Le puissant habitant se mettait à observer son domaine, l'esprit sur le front de sa vitrine s'éclairait d'une lumière plus tendre. Son regard songeur devenait grave et doux. Des feux couverts et divinement humains, profondément aimants, s'éveillaient dans la transparence de ses longs yeux frangés, tels des flammes sacrées dans un sanctuaire mystérieux. Par ce puits de cristal brillait une volonté qui apportait à la vie une large dimension. Derrière l'arc scrutateur des sourcils, une puissance noble dominait son grand front candide et regardait les choses transitoires à la lumière de la sagesse. Annonciatrice de la victoire dans la tour de veille, son aspiration faisait descendre le haut destin. Une guerrière silencieuse faisait la ronde dans sa place forte, inviolée, gardant le trône diamantin de la vérité. Son cœur, passionné tel un lalo d'une lune de nectar, alors il y a un nota bene concernant la lune de nectar. Dans la tradition indienne, la lune Soma représente le dieu de la joie divine, l'Ananda, ou le nectar, qui est la base de la création. Savitri est le symbole même de la joie créatrice, qui veut la joie pour la terre. Aimer tous les êtres sans prononcer un mot et sans faire un signe, mais garder le secret ravi dans son sein, un monde silencieux de félicité ardente et tendre. Fier, rapide, pleine de joie, l'onde de vie courait en elle, comme une rivière du paradis. Maint hôte Dieu habitait de sa maison de beauté. Déjà l'orbe de sa nature faisait un tout parfait, harmonieux comme une mélodie aux maintes tonalités. Immense et varié comme un univers. Presque le corps qui abritait cette grandeur semblait une image faite de la lumière transparente des cieux. Son charme rappelait un tableau des heures de vision, une passerelle d'or sur un fleuve de féerie. Un palmier solitaire près du lac semé de lune, compagnon seul d'une vaste paix moirée, un bruissement des feuilles du jardin d'Éden, quand vont et viennent les pas des immortels, une auréole de feu sur des montagnes endormies, un étrange visage étoilé, tout seul dans la nuit. Alors c'est la fin du chant 1 de Sri Aurobindo, Savitri, livre 4, chant 1. Je vais commencer le chant 2, qui est « Après la naissance et l'enfance de la flamme, la croissance de la flamme ». Savitri, grandissante, retrouve sa parenté avec les mondes de beauté et les sources de notre inspiration humaine. Mais tout cela ne pouvait pas remplir la vastitude de son être. Puis elle tente de partager ce qu'elle est au premier cercle des jeunes disciples, mais nul n'arrivait à la rejoindre. Un pays, des montagnes et des vastes plaines battues de soleil et des fleuves géants roulant lentement vers des mers immenses. Un lieu de création et de calme spirituel. où le silence engloutissait les actes de la vie dans les abysses. D'escalade transcendante de la pensée et de bond vers les cieux, un monde enveloppé de rêverie et d'extase, imprégné des prodigieux travaux de Dieu et de l'homme, où la nature semblait un rêve du divin, une terre natale de la beauté et de la grâce, et de la grandeur, abriter l'enfance de la flamme incarnée. Sur elle veillaient des influences millénaires, les divinités profondes d'un passé grandiose la regardaient et voyaient venir les divinités futures, comme si cet aimant attirait leur invisible pouvoir. La sagesse méditative de la terre parlait à son cœur silencieux, grimpant les ultimes pics du mental pour épouser les dieux. Prenez les pensées claires de la terre comme un tremplin pour plonger dans les vastitudes cosmiques. La connaissance du penseur et du voyant voyait l'invisible et pensait l'impensable, ouvrait les portes colossales de l'inconnu, déchirait les horizons de l'homme pour le précipiter dans l'infini. Les actes des mortels talents phares balayaient des mers sans rivage, et l'art et la beauté jaillissaient des profondeurs humaines. La nature et l'âme faisaient assaut de noblesse. Les humains accordaient leur éthique à l'image des cieux. L'harmonie des tons d'une riche culture raffinaient l'essence et multipliaient leur portée. Ils entendaient l'inattendu et percevaient l'invisible. Alors je répète, ils entendaient l'inattendu et percevaient l'invisible. Apprenez ta lame à s'envoler par-delà les choses connues, inspirant la vie à grandir et à briser ses limites, éveillant l'aspiration vers le monde caché de l'immortel. Quittant la sécurité de la terre, les ailes audacieuses du mental portaient sa vitrée au-dessus des plaines battues de la pensée, et traverser les mers mystiques de l'au-delà pour vivre sur les pics d'aigle près du soleil. Là siège la sagesse sur son trône éternel. Tous les tournants de sa vie conduisaient à des portes symboliques. Ouvrez le passage au pouvoir secret de sa race. Adepte de la vérité, initié des béatitudes, acolyte mystique, formé à l'école de la nature, consciente de la merveille des choses créées, elle offrait le secret des songes profonds de son cœur sur l'autel du merveilleux. Ses heures étaient un rituel dans un temple immémorial. Ses actes devenaient les gestes du sacrifice. Insufflé du rythme des sphères supérieures, le mot servait de moyen hiératique pour délivrer l'esprit emprisonné et communier avec les dieux camarades, où il servait à évoquer des formules nouvelles pour exprimer ce qui peine et œuvre dans le cœur de la vie. Quelque âme immémoriale dans les hommes et dans les choses, dans ce chercheur de l'inconnu et du non-né, porteur d'une lumière de l'ineffable pour déchirer le voile des ultimes mystères. D'intenses philosophies tirer la terre vers les cieux, ou sur les bases mêmes de l'espace cosmique, soulever le mental terrestre à des hauteurs surhumaines. Sortant des formes plaisantes aux yeux extérieurs, mais qui cachent la vie, la vue de ceux qui vivent dedans. La sculpture et la peinture concentrer les sens à la lisière immobile de la vision intérieure, révéler une silhouette de l'invisible, dévoiler dans une forme l'intention de toute la nature, ou capter le divin dans un corps. L'architecture de l'infini découvrait ici les contours de ses rêveries intimes. Capturée dans l'ampleur d'un envol de pierre, la musique faisait descendre l'appel des cieux. Le chant saisissait le cœur dans l'ivresse des profondeurs, reliant le cri humain au cri cosmique. Les mouvements de la danse traduisaient le mouvement du monde, moulaient l'esprit et l'âme dans l'ondoiement d'un rythme. Les lignes subtiles et minutieuses de l'artisan éternisaient le souvenir d'un bref moment ou d'un coup de ciselé dans le dessin d'une coupe, tracer la trame et les lacis cachés de l'invisible. De vastes poèmes coulaient comme des mondes mouvants et des cadences jaillies de la voix des océans, traduisaient les grandeurs scellées dans le cœur de la nature. Mais jetés à présent dans un torrent de paroles glorieuses, et disait la beauté, la sublimité de ses formes, ses passions soudaines et ses caprices, soulevant le verbe humain près de la parole des dieux. Les yeux de l'homme pouvaient scruter les mondes intérieurs. Son examen découvrait la loi des nombres, organisait le mouvement des étoiles, dressait la carte de la formation du monde visible, mettait en doute les processus de sa pensée, ou faisait le diagramme théorique du mental et de la vie. Tout cela, sa vitrine l'absorbait comme une nourriture naturelle. Mais tout cela ne pouvait pas remplir son vaste moi. Cette recherche humaine limitée par ce qu'elle gagne lui semblait les premiers grands pas chanceux d'un esprit découvreur qui ne voyait pas encore par sa propre lumière native, il tâtait l'univers avec son bâton d'essai, où tendait son pendule de sourcier pour trouver la vérité du mental. 1000 pouces germaient de 1000 côtés, mais pas l'immense vision de l'âme. Pas encore le vaste contact direct et immédiat, pas encore l'art et la sagesse des dieux. En elle-même, Savitri sentait une connaissance sans limite, plus grande que la pensée de l'homme, une joie trop haute pour le cœur et pour les sens, emprisonnée dans le monde et criant pour être délivrée, attendant encore de trouver une forme, cherchant des supports pour grandir autour et des natures assez fortes pour supporter sans faiblir. Les splendeurs de sa beauté natale, sa grandeur et sa tendresse et sa félicité, la maîtrise de sa puissance et son vaste pouvoir d'amour. Alors je répète ces 3 dernières phrases. La splendeur de sa royauté natale, sa grandeur et sa tendresse et sa félicité, la maîtrise de sa puissance et son vaste pouvoir d'amour, la terre devenue un tremplin pour conquérir les cieux, son âme voyée par-delà les frontières, bornée des cieux, touchait une grande lumière de l'inconnaissable et rêver d'une sphère d'action du transcendant. Consciente du moi universel en tous, elle cherchait des cœurs vivants, des formes humaines, les reflets de son âme, ses compléments, ses contreparties, ses proches parcelles de son être extérieur, séparées d'elle par les murs du corps et du mental, et pourtant liées à son esprit par des liens divins. Dominant les barrières invisibles et les défenses masquées, et la solitude qui sépare les âmes entre elles, elle voulait que tout devienne une seule embrasse immense, où elle pourrait abriter toutes les créatures vivantes, les soulever toutes en un point splendide de lumière voyante, les tirer de cette épaisse crevasse inconsciente de la division et les faire un avec Dieu et avec le monde et avec elle. Et les faire un avec Dieu et avec le monde et avec elle. Alors, je termine la croissance de la flamme. Savitri, livre 4, chant 2, Sri Aurobindo. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette sublime et merveilleuse lecture. Merci Sri Aurobindo. Merci Mère. Ganga Lakshmi.